C'est parti pour une autre émission. On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1, votre émission du midi, de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Pascal, es-tu énervé? T'approches pour le départ pour le Kilimanjaro?
Honnêtement, c'est rare que je me livre sur l'état émotionnel. Hier, c'était pas une belle soirée.
Non!
Non, j'ai mal canalisé un peu le genre de trop-plein là, que
ah,
ça
je
amène
comprends.
De partir et tout ça. Mais c'est correct, on est reparti sa traque, la nuit c'est de sommeil ça. A amené, puis sa beauté de se revamper tout ça. Mais écoute, moi, ce que j'ai remarqué avant de partir, là,
ah,
je vais ouvrir une boîte de Pandore, 418-971-1021. Qu'est-ce qui se passe ces routes temps-ci? C'est-tu les chantiers de construction?
Ah.
Comment c'est orienté, c'est indiqué? C'est incroyable comment...
C'est pas un petit trafic, Pascal Cévin?
Du gros trafic à un 45 minutes quand c'est un okay. genre de 7 minutes habituellement. Puis là, moi, j'étais pas sur à Lévis ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Je sais même pas où c'est brûlant. Je fais Saint-Augustin, par exemple, le Bourgneuf. Là. L'enfer, ouais. L'enfer. Ce matin... parti bien plus tard parce que je voyais que finalement j'avais passé mon temps dans le trafic. C'était un 1h15 me rendre au travail. Là, on parle dans 8h15 jusqu'à 9h15 environ. Pas
ouais,
dans l'heure où il y a plus de trafic. Puis je vois tout ce qui est accident aussi au Québec 511 en le suivant ici là, au midi depuis quelques semaines. Puis j'ai l'impression que tout le monde échappe quelque chose. Tout le monde fonce dans une barrière. Tout le monde se fonce dedans.
Je partage ton constat.
Ah
oui,
Antonine,
bien
aussi, t'es
ouais.
jamais dans le trafic. Moi, alors que j'arrive le matin, j'ai pas de trafic.
Non, t'as pas de trafic. Mais il y a beaucoup de travaux un peu partout. Moi, je suis à Sillery, puis il y a beaucoup d'entraves pour sortir de Sillery. Puis c'est comme si les gens savaient pas se gérer, je m'excuse, là, parce qu'on peut parler de planification, puis les travaux, puis tout ça, mais par exemple, quand il y a une voie qui disparaît sur une route...
Ah oui, puis là, j'essaie d'être gens... celui qui va aller jusqu'au bout!
Mais il faut, en fait, Jeff, il faut aller jusqu'au bout.
Mm-hmm.
C'est la manière la plus efficace, et là, quand il y a quelqu'un qui est au bout, tu
ouais.
le laisses passer. Ça
un
te prend trois secondes. Chacun son tour.
Chaque personne dans la file de droite, par exemple, doit... chacun son tour, laisser quelqu'un de gauche qui est au bout de la voie qui se rétrécit passer.
Mais ça, c'est pas compliqué. Ensuite, les gens semblent avoir des difficultés avec les priorités. Là, ça,
les clignotants.
Oh là là. Oh,
on
ben
peut-tu
oui.
aborder le fait que j'ai manqué la date où c'est devenu optionnel? Parce que moi, vous m'aidez grandement.
Quand
ça
aide tout le monde.
Ça m'aide. Là, je peux anticiper oui. vos mouvements. Je peux choisir ouais. la voie dans laquelle je vais être. Je peux calculer si je vous laisse passer ou non. Le plus intelligent, c'est d'aller un petit peu plus vite pour ensuite que vous puissiez passer.
Puis on s'entend-tu quand on arrive à une intersection à 4 stops? Vos clignotants nous aident justement à comprendre les priorités, s'il vous plaît.
Allez,
genre...
où on
mec,
va?
Là, je veux pas. Sûrement que c'est pas ton but. Là,
là
on
les
veut
filles,
pas,
vous vivez de la frustration.
Les gens, honnêtement, un peu.
418-971-1021, si vous vivez de la frustration, Louis nous écrit les bip de pistes cyclables à marchand. Bon, est-ce que ça explique
c'est
tout?
C'est pas mon plus gros problème
je
en ce moment.
Répond, on parle plus d'autoroute pour le moment. Webradio-blvd.fm pour nous écouter. BLVD-1021, l'application disponible sur App Store et Google Play Store. Et venez nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM. Et textez-nous 418-971-1021. C'est quoi vos frustrations sur la route à l'heure actuelle? Êtes-vous comme Antonine Iaccarini et Pascal CV? Vous êtes pris dans ce mosus de trafic-là? Je vois-tu finir par arriver où je veux arriver?
Avec quelqu'un qui dit « Salut gang, je suis de Saint-Étienne. Ça me prend tellement de temps maintenant que je songe à quitter mon emploi. Je capote, le trafic m'enrage.
Ouais.
Les gens sont rendus tellement agressifs sur la route, ça en fait peur. Puis je l'indique, là, une affaire qui est pour moi cancérigène sur les autoroutes, là, puis honnêtement, très accidentogène. Entrer sur l'autoroute à 20, là.
Oh, mon Dieu.
C'est pas que vous faites la bonne chose. Je suis désolée de vous dire que vous êtes vraiment dangereux. On n'arrive pas
sans
à
arriver le flow.
Le go with the flow.
Il y a quelqu'un qui nous dit attendez cet hiver.
Oh,
on n'est pas rendu à l'hiver.
On n'est pas rendu là.
On n'est surtout pas rendu dans la fameuse saison où c'est pas encore obligatoire tes pneus d'hiver, mais il est tombé une bonne bordée.
Ouais.
Hey, ça, ce matin-là, c'est le bordel.
Je suis vraiment désolée. C'était un trop plein.
Hey, c'est correct, t'as
ça
le droit.
Fait du bien.
Ah oui. Hey, évapore.
Mais c'est vraiment que j'avais remarqué une différence.
Bon. Yes, c'est le temps de passer au caucus.
Oui.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Le caucus avec Antonine Iaccarini. Anto, on part ça avec sûrement un des bons pétards mouillés de la politique provinciale de l'année 2025. Hier, on reçoit un communiqué du Parti conservateur du Québec. Youri Chassin invite Éric Duhaime à l'Assemblée nationale. On va parler de nos priorités. Donc là, on se dit, ça y est, crime, ça y est. Youri Chassin va revenir sur ce qu'il nous a dit en ondes pas plus tard que la semaine dernière?
Bien, alors je vais vous répondre très franchement, non. Parce que, dans le fond, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Moi, je suis sceptique, par exemple, du discours du premier ministre, puis je l'ai écouté très attentivement. J'espère qu'il est sérieux, j'espère qu'il va y aller. Moi, à la limite, ce matin, peut-être que je mets très sympathiquement ma propre pression pour lui dire, ben, on demande à être convaincu, mais je demande aussi au Parti conservateur, puis à tous les autres partis d'opposition, de détailler leur proposition, puis à la limite aussi d'avoir, des propositions qui vont inciter aussi le gouvernement à voler certaines idées.
La question est, est-ce que vous allez aller chez les conservateurs?
Ben,
je
vous
dis, ben franchement, non. Mais là, après ça, j'aimerais ça si les conservateurs pouvaient détailler. Donc là, hier, on reçoit un communiqué du Parti conservateur disant, hey, Youri Chassin, il invite Éric Duhaime, puis on va détailler nos propositions pour la prochaine session à l'Assemblée nationale. Donc là, je t'appelle, on se dit, hey, c'est fait, Youri Chassin. Ça en va avec les conservateurs, 10h30 à matin, finalement. Pouette, 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 pouette.
Ben, ils nous ont bien eu. Ils ont fait un Catherine Fournier qu'on appelle.
Oui, c'est vrai.
Parce que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Catherine Fournier, elle avait envoyé un avis aux médias pour parler de son avenir politique. Généralement, quand tu veux parler de ton avenir politique, c'est pour annoncer que tu t'en vas.
Quelque chose de gros, du
puis
moins.
Finalement, elle annonçait qu'elle se représentait. Puis les journalistes étaient fâchés. Puis elle disait, ben là, pourquoi les gens pensent toujours que c'est négatif? Fait que, bref, on appelle ça depuis ce temps-là faire un Catherine Fournier. Mais c'est vrai qu'on s'était un peu énervés, là, Jeff et moi. Hier soir, ça avait commencé. Je voyais un peu sur X, Radio-Canada rapportait ça, etc. Donc, on a pensé que finalement, Youri Chassin deviendrait le billet doré d'Éric Duhaime pour rentrer à la nationale, mais aussi parce que on s'attend à ce que Éric Duhaime peut-être va avoir un débat autour de sa participation au débat des chefs
en
à la
effet.
Prochaine campagne électorale. Parce que c'est pas quelque chose qui est régi par Élections au Québec, là, par le directeur général des élections, les règles entourant qui on invite dans un débat des chefs, c'est les médias qui décident en fait qu'ils invitent, puis ils se mettent des lignes directrices. Généralement, on met la ligne à est-ce que tu as un député ou pas?
Ouais.
Par exemple, le Parti vert au fédéral a commencé à participer à des débats des chefs au palier fédéral quand il y a eu un premier député.
Il n'y en avait pas la dernière fois. Il a participé là, avec 500 000 électeurs, par exemple, qui ont quand même voté pour lui.
Il y en avait un? Ah, t'as oublié!
C'est vrai, j'ai oublié l'époque de Claire!
On pensait que Youri Chassin serait la nouvelle Claire Samson, le nouveau Claire Samson.
Mais comment ai-je pu faire pour oublier Claire?
Elle est pourtant inoubliable.
Ben, c'est ça!
Donc,
pardonnez-moi.
Donc, c'était Claire Samson qui était sa députée. Ça lui avait ouvert les portes du débat des chefs. Ça lui ouvrait la porte de l'Assemblée nationale aussi, parce que ça permet, par exemple, de faire des points de presse qu'on appelle dans notre jargon de l'Assemblée nationale dans le foyer, alors qu'Éric Duhaime fait ses points de presse à l'extérieur de l'Assemblée nationale à la tribune de la presse, doit louer à chaque fois une salle pour faire ses conférences de presse. Donc, maintenant, s'il est invité par un député, donc Youri Chassin peut l'inviter, même s'il n'est pas dans son parti, pour venir faire ses conférences de presse. Par contre, si ce n'est pas un député qui se dit sous la bannière du Parti conservateur, ça n'ouvre pas exactement toutes les portes. Moi, ce que je comprends, c'est que Youri Chassin, il veut rester indépendant. Il valorise ça. Il est content. Ça lui permet de jouer un peu sur tous les tableaux. Lui, son but, c'est quoi? C'est d'amener tout le monde un peu plus vers la droite. C'est un député, une personne qui est très connue pour ses positions plus à droite. Puis quand il dit « je veux que les conservateurs détaille certaines choses », bien, je suis un peu d'accord avec lui. C'est que tu te joins à un parti, mais dans le fond, tu te joins à quoi? Parce qu'on ne connaît pas tout de la vision d'Éric Duhaime. Il y a plusieurs enjeux sur lesquels la vision n'est pas toujours très développée. On en a jasé quelques fois, notamment ces questions d'immigration, mais sûrement qu'il y a d'autres enjeux aussi là, sur lesquels Youri Chassin voudrait avoir plus de précision. Mais ça ne veut pas dire que Youri Chassin ne va pas faire ça d'ici le débat des chefs, par contre.
Ouais,
il pourrait garder son indépendance longtemps.
Puis se rallier à la dernière minute.
Ouais.
Pascal, on vient de recevoir un communiqué commun de Youri Chassin et Éric Duhaime. Rapidement, détaille-nous les 5 priorités. Puis tu vas voir, Antonine, je pense pas qu'il y ait bien bonne nouveauté là-dedans.
Oui, vous parliez, c'est entré en fait au public, à tous les médias, en fait, on envoyait ça dans les boîtes courriels, puis tu parlais des mesures ou en fait des priorités de Youri Chassin. Là, ils se sont alliés, Éric Duhaime, Youri Chassin, pour parler de 5 mesures phares. La première, libéraliser le commerce de l'alcool. Alors, le monopole de la SAQ dérange, on dit que ça coûte trop cher aux Québécois, ça limite la liberté de choix, que les consommateurs paient plus, subissent des grèves, doivent accepter une offre restreinte. Ce n'est pas normal. On veut vendre du vin et des spiritueux et pas avoir ce genre de mission de l'État là-dedans. Deuxième priorité pour eux, abolition des quotas de véhicules électriques. Bon, c'est sûr que ça, c'est une lutte qu'Éric Duhaime mène au bout de ses bras depuis plusieurs mois déjà, mais les deux
mon
hommes
char,
jugent que l'interdiction des voitures à essence hybride jusqu'en 2035, là, ça ne respecte pas les citoyens. Il faut savoir que M. Legault avait reculé, mais quand même, ils reviennent avec cette date-là. Mmh. Et les Québécois sont sensibles aux défis climatiques, c'est ce qu'ils disent. Ils vont faire le bon choix selon leurs besoins. Troisième priorité, vote secret pour l'accréditation syndicale. Donc, on parle de moderniser le régime syndical. Et là, M. Chassin a dit qu'il estime que la vraie modernisation commence par le processus de création d'un syndicat qui devrait permettre aux travailleurs de se prononcer dans un vote secret. Quatrième priorité, fin de la permanence des hauts fonctionnaires. Pas besoin d'en dire plus. Vous comprenez, imputabilité, ancienneté qui prime pas celle de la compétence, etc. Et ramener la SAAQ CLIC et SAAQ à sa mission d'assurance. Donc, on ne veut pas d'une société d'État unique au monde là-dedans et inutilement bureaucratique, c'est ce qu'a déclaré Éric Duhaime, mais les deux signent ce communiqué-là.
Il n'y a rien de nouveau là-dedans, Antonine. Il n'y a rien qui frappe, là, qui fait comme « Oh mon Dieu, voici une révolution ».
Non, mais c'est très concret. C'est, des, c'est cinq propositions qui sont très concrètes et le timing est vraiment intéressant parce que la CAQ, de toute façon, s'apprête à faire un petit virage vers la droite.
Bien, la CAQ s'apprête, pas s'apprête, fait la guerre aux syndicats à l'heure actuelle, donc juste
guerre
le point 3.
Aussi la question des véhicules électriques. Ouais, on se doute bien que Bernard Drinville a reçu le mandat de baisser certaines cibles, de réduire des lois environnementales. Donc, Yuri Chassin et Éric Duhaime vont pouvoir dire « Ah ah! » On a fait des gains.
C'est grâce à nous.
Eh oui.
Je comprends la stratégie derrière ceci. Mais bref, ça reste mon opinion personnelle quand même. Ça ne m'a pas impressionné pantoute à matin.
Pas impressionné.
M'attendais à de quoi de mieux.
Bon.
Mais Éric Duhaime et Yuri Chassin seront en entrevue dans Marceau le matin et demain matin.
Bon.
Fait qu'écoutez, là, aux
alentours
de 8h.
Peut-être qu'ils vont
t'impressionner. Peut-être qu'ils m'impressionneront à ce moment-là. Dossier qui fait très jaser sur la colline parlementaire, c'est le dossier des armes à feu, mais surtout le comportement du ministre de la Sécurité publique. C'est bien ça au niveau du gouvernement fédéral.
Oui, tu veux-tu dire son nom?
Ouais, vas-y donc, dis-le avant moi. Je vais te suivre.
Honnêtement, pas très facile. Donc, il s'appelle Gary Anandasan Gary.
Gary Anandasan Gary.
Au moins, c'est Gary Gary, mais
Gary,
c'est,
Gary.
Pas,
bon.
C'est pas facile.
Alors, du ministre Gary, hein? Je vais l'appeler
Gary,
comme
Gary.
Ça. Gary Gary. On écoute Pierre Poilievre en chambre, justement, par rapport à des commentaires qu'il aurait passés.
Policy because it's good politics. Going ahead with the bad policy because it's good politics. Does the Prime Minister agree?
The Honourable Minister of Public Safety.
Mr. Speaker, it's a good thing there's a recording of it so that Canadians can have a look for themselves. Let me be very clear, Mr.
Donc, dans le fond, ce que Pierre Poilievre dit au ministre de la Sécurité publique, c'est que monsieur, en fait, le ministre de la Sécurité publique, pour résumer, a été enregistré en train de donner le fond de sa pensée sur la loi, sur le programme, en fait, de rachat des armes d'assaut. Parce que le gouvernement Trudeau avait interdit à peu près plus de 1000 armes dites d'assaut. Et maintenant, ben, il y a un projet pilote de rachat qui se passe dans les maritimes. Et on doit étendre ce projet pilote à l'ensemble du Canada. Les conservateurs, toujours très frileux à toute nouvelle législation entourant les armes à feu. L'électorat conservateur n'aime pas ce genre de politique. Donc, monsieur le ministre de la Sécurité publique...
Anandzagari.
Bravo. A été enregistré en train de dire que c'est un programme qui n'est pas vraiment applicable. Et que les policiers vont trouver ça extrêmement lourd puis qu'il n'était pas très favorable, finalement, à cette politique-là.
Puis là, hier, pendant 18 minutes devant les journalistes, il annonce sa politique. Puis là, il essaye de se démerder devant tout le monde.
Un grand malaise.
Il y a des questions en français, c'est Joël Lightbound qui vient à la rescousse. Mais tu vois que Joël Lightbound, il n'est pas super confortable. Puis tu vois la gang de députés en arrière, et ils ont une face de plâtre un peu parce qu'ils disent « Oh my God, que le messager n'est pas le bon ».
Bien, c'est ça. Une fois que le ministre lui-même de la Sécurité publique dit que c'est une mauvaise politique. Et dans la conversation, en fait, on ne l'a pas, la conversation. Les journalistes ont pu l'écouter et rapporter ce qui a été dit. Mais il dit, je peux pas arrêter cette politique-là pour des raisons politique. Donc, c'est ça que Pierre Poilievre dit. Dans le fond, c'est pour des raisons politiques que ce gouvernement-là a fait ça. Le ministre l'a dit lui-même. Et le ministre de la Sécurité publique se lève et dit « Je suis content là, que... » Dans le fond, c'est une bonne affaire là, que j'aie été enregistrée parce que ça va me permettre là, de clarifier le tout. Mais il n'y a absolument rien qui est clair. La seule chose qu'on retient de tout ça, c'est qu'il n'est pas à l'aise avec cette politique-là. Sur le dossier des armes à feu, j'ai aussi souligné à quel point c'est un dossier qui est polarisé. Puis, je trouve que des deux côtés, on tire l'élastique en tabarouette. Du côté du gouvernement, on nous dit, notamment cette ligne là, que j'entends tout le temps, on veut sortir les armes d'assaut de nos rues. C'est un programme de rachat d'armes, puis, donc, des armes qui étaient prohibées, etc., bon, mais de propriétaires légaux. Donc, tu sais, quand tu me dis on va sortir les armes d'assaut des rues, on dirait que je vois des gangs de rue avec des AK-47, là, tu sais, comme si...
Alors que là, c'est des propriétaires qui, en toute bonne cause, quand cette arme-là était... légales, sont allés l'acheter avec un permis.
Ils vont au centre de tir, probablement.
Ils vont au centre de tir.
Ils ne sont pas dans les rues là, avec leurs armes d'assaut. Là.
En effet.
Ça, c'est la première chose. Puis de l'autre côté, ben, les conservateurs font toujours l'espèce de même ligne de dire on s'en prend aux chasseurs. Je veux juste vous dire, ces armes d'assaut-là, à moins que les orignaux aient des guns, nous autres aussi, là, ça ne vous sert pas grand-chose d'avoir des armes d'assaut.
C'est pas des armes pour les chasseurs. Là.
Pas nécessairement.
On n'est pas venu couper dans la chasse. Il n'y a personne qui va aller à l'orignal bientôt qui dit « Oh my God, je suis obligé de revendre mon fusil parce que c'est pas le bon. »
Je pense que les gens vont pouvoir quand même aller chasser. Mais c'est vrai que les chasseurs déplorent la bureaucratie. C'est quand même des politiques qui ont fait énormément de débats à travers le pays. Mais bref, dans ce dossier-là, de la politique, il y en a en masse. Fait que le ministre de la Sécurité publique, quand il dit des raisons politiques, tout le monde fait de la politique dans ce dossier-là.
En effet, c'est clair. Par contre, je pense que tu es d'accord avec moi, puis tu as le droit d'être en désaccord en passant, mais
on verra.
On aime mieux avoir un registre, un petit peu plus de bureaucratie au Canada que vivre ce qu'ils vivent aux États-Unis.
Absolument. Moi, je suis très à l'aise avec les politiques qui font en sorte qu'on doit enregistrer notre arme. Mais c'est vrai que quand j'entends des choses comme on va sortir les armes d'assaut des rues, je trouve que finalement, on n'est pas super honnête sur les objectifs puis les indicateurs de performance d'une telle politique.
En effet.
C'est pas ça du tout, mais bon, écoute, c'est de la politique, hein, qu'est-ce que tu veux.
Exactement. L'objectif est sûrement plus que ça se retrouve pas à un moment donné justement dans les mains de gangs criminalisés, j'imagine?
Bien, premièrement, tu sais, ce genre d'armes à feu-là, c'est reconnu. En fait, plus qu'il y en a qui circulent, plus que ça augmente la violence par arme à feu. Je veux dire, il y a toutes sortes de facteurs, mais c'est un choix qu'on a fait au Canada, évidemment. Puis même si les gens étaient, je pense, il y avait quand même pas mal de monde qui était contre le registre dès le départ, là, si on parle seulement de cette partie-là, tout le monde s'est habitué finalement à vivre sous ce registre-là. Et c'est vraiment pas la fin du monde à suivre. Hein. Les lois ne sont pas si compliquées à suivre que ça.
Autre dossier politique épineux, c'est celui de l'identité de genre. Et Jean-François Roberge s'attaque au YEL et au TOUST dans les écoles. Il est en entrevue avec nous ce matin. Je vous fais entendre justement sa réaction et le pourquoi il le fait.
Ben, je pense qu'on est rendu à agir pour éviter la confusion. Parce que là, au moment où on se parle, de plus en plus, dans toutes sortes d'organismes, dans des ministères, dans des municipalités, n'ayant pas de guide clair, ben les gens font au meilleur de leur connaissance, pour être gentils, pour être inclusifs, ils se mettent à utiliser des mots qui fonctionnent pas avec la langue française. On comprend qu'il y a des gens qui appartiennent à la diversité de genre, mais quand on utilise, par exemple, le mot « YEL » pour dire « YEL sont contents », mais là, content, c'est content ou contente? On peut pas le conjuguer. Le pronom n'est pas conjugable, ne permet pas d'accorder. Donc là, ça pose un deuxième problème. Les gens écrivent content, en plein milieu du mot, mettre point ES.
Ouais.
D'être arrivé point S et heureux point SE pour que ça soit heureuse. Et là, finalement, on est rendu avec des mots en plein milieu des phrases plutôt qu'à la fin des phrases.
Parce que j'avais des
problèmes de lisibilité. Ça marche plus, là.
J'avais des.
Antonine Iaccarini, t'en penses quoi?
Moi, j'ai une position un peu plate et nuancée sur la question, je dois le dire.
Ben vas-y, t'es souvent nuancée, puis on aime ça.
Bon, écoute, sur le fond, moi, je pense que c'est une bonne chose de clarifier et de donner des lignes directrices. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le free-for-all en bon français. Cela dit, tu sais, quand j'entends le ministre dire « Ah, là, il y avait des heureux points SE, puis des... » Moi, je m'excuse, mais il y a encore quelques années, puis on parlait pas toujours de diversité de genre, mais juste pour être égaux avec les hommes et les femmes, on mettait souvent « heureux » entre parenthèses « SE ». Tu sais, je veux dire, c'est pas là, extrémiste là, de vouloir mettre plusieurs genres, je pense, puis d'essayer d'être inclusif et tout ça. Mais le problème, c'est qu'on a tellement poussé le concept à l'extrême que ça devient à un moment donné un peu illisible. Je pense que ça vaut la peine de faire un effort pour faire sentir les gens inclus dans la vie. Tu sais, moi, par exemple, je vais vraiment parler de manière très, très personnelle, mais si quelqu'un me dit, moi, mon pronom, c'est « Yel », ben, j'ai aucun... Je vais l'utiliser. Je vais faire super attention. Les gens qui mettent les pronoms, par exemple, dans leur signature courriel, je vais respecter ça. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne vais pas mettre mes pronoms dans ma signature courriel. Ça, pour moi, je trouve que c'est un petit peu une tyrannie de la minorité. Je veux juste, tu sais, regarder un petit peu les données, là. Les personnes non-binaires au Québec, ben, c'est estimé être à 0,09% de la population. Il y a les personnes transgenres, 0,14, c'est un petit peu plus. Il faut les inclure, il faut faire des efforts, mais est-ce qu'on doit tous commencer à mettre nos pronoms? Moi, j'ai jamais été trop fan de ça. Je pense que ça appartient à chacun, puis il faut respecter ça. Je donne beaucoup des formations dans la vie. Récemment, l'année passée, j'avais à donner une formation, puis la personne, j'avais vu dans sa signature courriel que c'était une personne qui était non-binaire. Tu sais, ça peut paraître niaiseux, mais j'ai tout adapté mon PowerPoint, tu sais, puis j'ai fait attention, je me suis posé la question comment va recevoir la personne non-binaire mon contenu. Hey, ça ne m'a pas demandé un gros effort. Bon, mm-hmm. Fait que là, ça, c'est ma philosophie par rapport à tout ça. Maintenant, sur la question gouvernementale, bien, c'est correct qu'il y ait des lignes directrices en la matière, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, sur la forme, parce qu'il y a le fond et la forme,
vas-y.
C'est une belle diversion, c'est extraordinaire, parce que, bon, premièrement, c'est sûr que se sont dit, ça va pogner. En ce moment, on le sent, il y a comme une espèce de retour du pendule. On est allé très, très loin dans tout ce qui est EDI, inclusion, etc. Et là, on sent un petit boomerang en ce moment. Il y a des politiciens aussi qui entretiennent ça ouvertement. Je veux dire, à partir du moment quand Donald Trump a annoncé, pour moi, il y a deux sexes. Genres, puis c'est tout. C'est le genre de propos, évidemment, qui vient décomplexer un peu les gens qui avaient des malaises avec toute cette question de la diversité de genre. Le ministre aurait pu envoyer juste une politique à l'interne. Mais il a décidé de quoi? De faire une annonce avec ça.
Oui. Pourquoi? Puis là, il est dans les médias. Il est à Mario Dumont. Il était avec nous un matin. Il était dans Mario Dumont.
Ah, il fait une grande tournée d'entrevue.
Il
là.
A attendu tous les médias avant de rentrer au Conseil des ministres. On le voyait, il faisait
il
la
voulait,
file. Parce
là.
Qu'il disait, hey, je vais vous parler aujourd'hui.
Ah, ouais, c'est clair que se sont dit, hey, ça, c'est bon, le matin, là, on y va. Mais de toute façon, c'est qu'en envoyant ça dans tous les réseaux publics, parce qu'on envoyait ça aussi dans le réseau de l'éducation, ouais. etc., ça allait de toute façon sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, autant prendre le contrôle du message.
En effet.
Surtout que ça allait probablement être quelque chose qui allait être globalement par la majorité assez bien reçu. Je regardais certains titres, il va interdire le YEL. C'est une manière de le présenter très spectaculaire, mais en fait, c'est qu'on se donne des lignes directrices où on dit, on voici qu'est-ce qui est correct d'utiliser pour des fins de clarté. Il faut que ce soit clair, les communications gouvernementales. Moi, je pense pas qu'on doit y voir de l'exclusion nécessairement, mais c'est sûr que le gouvernement l'a joué quand même un peu gros.
L'a joué gros. Avant de passer justement à la communauté LGBTQ+. Plus.
Oui,
pardonnez-moi à la communauté. Est-ce
non, tu vois, t'as fait l'effort.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on aurait tout simplement dû dire on revient comme à l'époque quand c'est féminin puis masculin ensemble, c'est on le conjugue au masculin?
Ah, oh, quel magnifique débat. Moi, encore une fois, avis très, très personnel, je me suis jamais sentie insultée que le masculin l'emporte sur le féminin.
Ouais.
Mais la question se pose. Sauf qu'à partir du moment où on met le masculin, le féminin, ben là, il est arrivé toute cette question de diversité de genre avec les personnes non-binaires et c'est devenu hyper compliqué. Pourquoi? Parce que notre langue est très, très genrée. En anglais, les tables et les chaises n'ont pas de genre.
C'est vrai.
C'est vraiment moins genré. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Nous, tout a un sexe, on dirait. Donc, ça vient ultra complexifier la chose. Exemple, en anglais, on a un mot pour dire des frères et sœurs, c'est « sibling ». C'est pas genré, sibling. Ouais. Ça peut être des gars, des filles, ouais, peu importe. Nous, en français, là, mettons...
C'est frères, sœurs, cousins, cousines, belle-mère, beau-père.
Alors, si
t'as... Belle-sœur, beau-frère.
Un cousin non-binaire, c'est un cousin ou une cousine, une cousienne, un cousiel.
En effet.
Il y a un mot, en passant, je ne le connais pas, mais je l'ai déjà entendu. Mais le fait que notre langue soit hyper genrée, ça a un impact. Par exemple, quand on parle de plusieurs personnes avec différents genres ou dont le genre n'est pas précisé, en anglais, on va dire « they »,« them mm-hmm. ». En français, on a été obligé d'inventer des mots et c'est là que le « yel », notamment, est apparu, ce qui vient encore plus polariser parce qu'on est dans une plus grosse gestion du changement quand on essaie d'être inclusif. Et plus la gestion du changement t'est rentrée dans la gorge à coup d'obligations et de pression sociale, on dirait que moins les gens vont bien réagir. Ça se fait pas tout en douceur, on dirait, cette transition-là, où on essaie d'être un peu plus inclusif sans que ça devienne là, trop lourd pour les gens.
La communauté LGBTQ+, va-t-elle sortir? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
Bien, premièrement, la communauté, c'est pas pour rien que c'est un arc-en-ciel. Hein? C'est pas un bloc monolithique là, avec une opinion nécessairement. Donc, oui, il risque d'avoir des gens de la communauté au sens très large, qui vont sortir, qui vont trouver que, ben, premièrement, on fait de la politique sur le dos des personnes non-binaires. Parce que
on tente d'aller chercher du capital politique.
Ben oui, puis que c'est un petit peu dans le vent en ce moment, puis que ça vient conforter les gens qui veulent pas trop changer leurs habitudes. Donc moi, je pense que oui, ça va créer des réactions, c'est certain. Maintenant, autant je trouve que c'était pas la priorité de tous les instants pour le gouvernement, là. Mm-hmm. Comme je trouve qu'il y a des affaires plus urgentes dans notre société, évidemment. Autant je pense que ça va être contre-productif de la communauté de vraiment essayer de se battre contre ça. Moi, je pense qu'encore une fois, quand on parle de gestion du changement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut la travailler ensemble. Moi, je pense que les mots évoluent. Il y a des choses qu'on disait il y a 20 ans qu'on ne dit plus et c'est une bonne chose, mais c'est un peu la même chose en matière de diversité de genre. Il faut amener les gens tranquillement. Il faut comprendre aussi que c'est moins facile pour les gens plus âgés. Puis je sais que c'est pas que je veux réduire le ressenti des gens que ça blesse, là, des fois quand ils sont mégenrés, etc. Mais des fois, il faut voir aussi que c'est pas toujours des mauvaises intentions derrière ça.
Mais tu as tellement raison, parce que moi, mes enfants sont nés dans cette mouvance là, du YEL, des médias sociaux, dans la mouvance où même, tu sais, on faisait plus de distinction entre nos différentes nationalités. Donc, c'est juste une mouvance qui, avec le temps, va venir justement... Puis là, j'aime pas ça utiliser ce terme-là, là, mais va devenir dans la norme.
Ça va faire une fluidité, ça se normalise. Tu sais, des jokes aussi qu'on attendait dans le temps, que les gens n'ont même pas eu écho de la signification quand tu traitais de quelqu'un de newfie. Mm-hmm. Quand tu disais un plan de nègre, il y a des gens qui savaient même pas que c'était raciste.
En effet.
Le disaient parce que ça avait toujours été dans la culture, puis à un moment donné, tu remontes à ça. Mais il y a une certaine fluidité, il y a une compréhension, il y a des choses qui ont été dites. Il y a tellement de grands-parents qui sont doux puis qui veulent comprendre leurs petits-enfants dans leur génération puis leur changement, qui sont maladroits, mais qui ont. Mm-hmm. Je pense qu'il faut avoir cette mentalité-là, peut-être de dire d'abord et avant tout, je pense pas que la personne veut choquer si elle est maladroite.
Généralement, les gens vont pas changer leur comportement si tu leur sens qu'un coup de poing dans la face, OK? Il faut comme que tu les amènes
généralement.
Les faire sentir cons, puis racistes, puis homophobes, puis transphobes. Je pense pas que c'est la bonne approche. Cela dit, je sais que les personnes trans et non-binaires vivent des choses extrêmement difficile. Parmi les personnes les plus vulnérables de notre société,
clairement.
Des taux de détresse, dépression et suicide qui sont aussi plus élevés. Donc,
énormément
je les comprends aussi.
Énormément de rejet. Là.
Absolument. Imagine l'école secondaire.
Au Patro Charlebourg, on a accompagné justement une adolescente qui a fait le processus de changement de sexe, rejetée complètement par son père.
Très difficile pour ces personnes-là qui ont des vécus qu'il faut prendre en considération. Mais c'est ça. Moi, je pense que, par exemple, si j'ai un membre de ma famille plus âgé qui dit un mot qu'on ne dit plus dans la vie, ben, c'est, au lieu de dire franchement, puis ça n'a pas de bon. Tu sais, peut-être juste dire ah, tu sais, on dit plus ça, là, tu sais, de nos jours, on dit ça, tu sais, ça a évolué. Puis je pense que la plupart des gens vont être ouverts. Mais c'est sûr que si tu les traites de cave puis d'arriérés mentaux, je pense pas que les gens vont embarquer dans ton train là, de changement, de gestion du changement.
C'est clair. Je termine le caucus Iaccarini. Ça va être pour introduire la prochaine invitée avec un extrait de l'entrevue avec Napoléon Hou hier sur nos ondes dans Marceau le matin.
Comme ça, quand je vois le monde en arrière de chez nous, là, qui ont toutes eu une éducation, puis parlent la langue, puis des ressources pour les aider, là, pourquoi qu'ils s'en sortent pas?
Reconnaissez-vous que l'itinérance, c'est quand même une problématique qui est plus complexe que j'ai eu de l'éducation. Vu que j'ai eu de l'éducation, je devrais pas être un itinérant. Il y a de la santé mentale là-dedans, il y a de la toxicomanie.
Non, c'est pas si compliqué que ça, là. Faut-tu les reboot de garde?
Comment on fait ça pour les rebooter?
Mais tu les encourages de retourner à l'école, tu leur donnes des ressources. Il y en a qui veulent s'en sortir, mais ils sont pénalisés parce que des groupes communautaires donne aux oiseaux qui crient le plus fort. Il y a des limites à la compassion, l'empathie à l'infini. Là. Il y a des limites à ça. Il y a des limites à des ressources, l'argent.
Pascal Antonine, vous savez, il n'y a rien de mieux de parler avec des gens sur le terrain pour bien comprendre les réalités. Et je la salue, elle est dans le corridor, elle nous attend. On aura Alexandra Doyon, une auditrice de Boulevard 102.1, qui a vécu de l'itinérance pendant 3 ans. Au sorti, c'est une ex-enfant de la DPJ, donc à ses 18 ans, elle a vécu de l'itinérance durant 3 ans. Elle n'est plus en itinérance depuis 5 ans. Elle va venir nous parler de son vécu. Je pense que ça va être la meilleure façon de venir justement clore le fameux débat qui prévaut depuis vendredi dernier.
Faites ouvrir les radios de vos proches, de vos collègues là, pendant la pause. Là, parce que je pense que ça va être très pertinent sur la situation à Québec.
Exactement. Alors, après la pause, on accueille Alexandra Doyon, une auditrice de Boulevard 102.1 qui va venir nous raconter son vécu en itinérance. Restez avec nous, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission d'Enjase.